pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 23e dimanche. De nouveau, Jésus sort des territoires de Tyr et Sidon et va vers la mer de Galilée au milieu du territoire des dix villes. On lui amène un sourd qui parle aussi avec difficulté. On le supplie de lui imposer la main. L'ayant pris à l'écart, loin de la foule, il met ses doigts sur ses oreilles et ayant craché de la salive, il lui touche la langue. Ayant levé les yeux vers le ciel, il soupire et lui dit
« Ephphatha »,
ce qui signifie « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrent, le lien de sa langue est délié et il parle correctement. Il leur recommande de n'en parler à personne. Cependant, plus il leur recommande, encore plus ils proclament. Ils sont excessivement frappés et disent
« Il a fait toutes choses bonnes, il fait entendre les sourds et parler les non-parlants. » Et auditrice, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Il fait entendre les sourds et parler les non-parlants. Voilà des mots qui résonnent familièrement dans nos oreilles. Mais nous sommes peut-être un peu déconcertés par ce récit, par un miracle de Jésus dont les gestes sont un peu insolites et qui semble ne pas faire appel à la foi du malade. Quel sens a donc cet épisode dans le récit de Marc et quel sens peut-il avoir pour nous aujourd'hui?
Eh bien, dans le récit de Marc, nous sommes dans une section qui va depuis la visite à Nazareth jusqu'à la profession de foi de Simon-Pierre à Césarée de Philippe. Cette profession de foi de Pierre marque le point culminant de la prédication de Jésus en Galilée. Ensuite, eh bien, ce sera la montée vers Jérusalem et la passion. Deux éléments ressortent de cette section. Le premier élément rappelle l'incompréhension de beaucoup vis-à-vis de Jésus et de son message. Son village natal, Nazareth, sa parenté, n'ont pas foi en lui. Ses disciples même sont souvent sans comprendre. Et le second élément concerne les nombreux contacts de Jésus avec des païens. Jésus se trouve souvent dans des territoires païens qui sont limitrophes à la Galilée. À Tyr, le Liban actuel, Jésus guérit la fille d'une syrophénicienne. Puis dans la Décapole, les dix villes, la Transjordanie actuelle, il guérit un sourd, et c'est notre texte. Le second repas des pains multipliés qui suit notre texte concerne très probablement les païens. Donc, ces deux éléments, incompréhension de beaucoup et nombreux contacts avec les païens, devraient éclairer notre texte.
On lui amène un sourd.
La manière dont Jésus va ouvrir les oreilles et délier la langue du bègue est la manière habituelle dont les médecins de l'époque opéraient. La salive était alors considérée comme source de vie, proche de la parole. Les récits païens de miracles relatent de semblables pratiques et donnent d'ailleurs souvent beaucoup de place à la technique de la cure. Fuite des regards curieux, manipulation, usage de la salive, regard vers le ciel, soupir profond, parole en langue étrangère. Un auteur latin, Tacite, raconte la guérison d'un aveugle qui a été opéré par l'empereur Vespasien en humectant de salive ses orbites. Le schéma des récits païens a peut-être été emprunté ici pour décrire cette guérison. Une guérison d'ailleurs qui ne signale pas la foi du malade, comme c'est souvent le cas, mais qui note plutôt la foi de ceux qui amènent le sourd. On le supplie de lui imposer la main. Eh bien, on retrouvera une description semblable pour la guérison de l'aveugle de Bethsaïde.
On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains.
Et dans le récit de Jean, une autre guérison d'aveugle se fait aussi avec la salive.
Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle.
À travers ces gestes physiques très concrets, eh bien, c'est la force spirituelle de Jésus qui se transmet, qui passe. le regard qu'il lève vers le ciel indique qu'il fait appel à l'Esprit de Dieu pour lui donner une force de guérison. Et le soupir, bien traduit un mouvement profond d'appel à la force divine et une conscience qu'il aura une opposition puissante à vaincre. L'unique parole qui est rapportée, Fata, se trouve en araméen, la langue familière de Jésus. Dans ce miracle accompli en terre païenne, le fait de garder l'araméen peut évoquer les formules mystérieuses qu'on trouvait alors sur les lèvres des guérisseurs païens.
Il a fait toutes choses bonnes. Il fait entendre les sourds et parler les non-parlants.
Cette acclamation est peut-être inspirée d'un texte d'Isaïe dans sa traduction grecque.
Voici que votre Dieu va rendre la justice, il va venir et vous sauver. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds entendront. Alors le boiteux bondira comme le cerf, et la langue de ceux qui parlent avec difficulté sera claire.
Cette référence à Isaïe serait aussi suggérée par le fait que le mot utilisé pour dire le handicap de la parole n'est utilisé dans la Bible que deux fois. Dans ce texte d'Isaïe que nous venons de lire et dans notre récit, il s'agit de mogilalos, qu'on peut traduire par bègue, c'est-à-dire celui qui parle avec difficulté, plutôt que par muet. Ce passage d'Isaïe était familier aux premières communautés chrétiennes. Il était déjà en arrière-plan de la réponse de Jésus aux envoyés de Jean le Baptiste.
« Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. »
Non seulement Jésus est vu comme un prophète, mais il est l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire le grand prophète semblable à Moïse et attendu comme le Messie. Dieu accomplit sa promesse et refait en quelque sorte sa création en recréant l'être humain comme un être nouveau. C'est ce que suggère l'acclamation de la foule. Il a bien fait toute chose. En effet, on peut penser au texte de la Genèse qui décrit la création. Toutes les choses qu'il a faites, Dieu vit qu'elles étaient très bonnes.
Jésus leur recommande de n'en parler à personne.
Nous retrouvons ici encore ce qu'on appelle le secret messianique. Alors pourquoi Jésus demande-t-il le silence sur ses actes? On peut répondre que ce silence s'imposait pour ne pas courir le risque d'être arrêté par les autorités romaines. En effet, si la foule reconnaît dans les gestes de Jésus ceux du Messie, alors Jésus peut être jugé comme usurpateur, d'un pouvoir qui est alors entre les mains de l'empereur de Rome. Les autorités juives peuvent aussi craindre qu'un soulèvement populaire autour de Jésus ne se crée et que les Romains viennent réprimer le soulèvement et enlèvent aux grands prêtres les restes de pouvoir qu'ils leur ont laissés. Mais pour Jésus, la crainte est d'abord dans l'ambiguïté de la figure du Messie. Dans le récit évangélique de Marc, cette demande de silence se retrouve pour quatre miracles. Le lépreux, la fille de Jaïr, que Jésus ramène de la mort à la vie, le sourd-bègue et l'aveugle. Or, ces quatre miracles correspondent aux œuvres du Messie dans la réponse de Jésus aux envoyés du Baptiste. Certes, Jésus est le Messie, mais pas à la manière dont les foules le perçoivent. Il ne veut aucunement prendre un pouvoir politique. Il veut, au contraire, opérer un changement de mentalité dans la façon de vivre. Dieu doit être vu comme le Père infiniment miséricordieux et non pas comme le juge tout-puissant qui punit. Et chaque humain peut vivre de cet amour de bonté généreuse qui est celui de Dieu, à la seule condition de se laisser aimer par lui. Voilà la foi de Jésus, et c'est cette foi qu'il veut partager à ceux qui deviendront ses disciples. Mais cet amour inconditionnel conduit au pardon, sans cesse donné et redonné. Et c'est donc du visage d'un Dieu humble, pauvre, vulnérable, pardonnant, que Jésus veut témoigner. Et cela ne peut pas coïncider avec l'image d'un Messie puissant, chargé d'exterminer les méchants pour établir le règne de Dieu. Tant que ce visage de Dieu ne sera pas reconnu, Jésus demande le silence sur ses faits et gestes. C'est seulement lorsqu'il sera sur le point d'être livré à la croix que Jésus pourra accepter les cris de louange de la foule.
Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu. Béni soit le règne qui vient.
Oui, c'est le crucifié par amour qui pourra vraiment témoigner du vrai visage de Dieu. Et le disciple devra comprendre aussi cela et marcher sur les pas de son maître.
Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive.
Oh, c'est sans doute cela que n'ont pas encore compris ni les chefs juifs, ni même les disciples. D'où la demande de Jésus de garder le silence sur les faits merveilleux qu'il accomplit.
Leur cœur est endurci.
Plusieurs fois dans les chapitres 6 à 8 revient ce thème de l'incompréhension.
Ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était endurci.
Les disciples et les foules n'ont pas vraiment saisi le sens du repas des pains multipliés. Ce repas qui renvoie aux besoins de la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. Le récit de Jean sera d'ailleurs plus explicite encore dans le grand discours à la synagogue de Capharnaüm.
Amen, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau.
Les chefs juifs et les pharisiens contestent la façon qu'a Jésus de vivre les préceptes religieux et notamment ceux qui concernent le pur et l'impur.
Les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Il leur dit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, car il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes. »
Dans la pratique quotidienne, cette question du pur et de l'impur crée une barrière entre les Juifs et les païens. Et l'enseignement de Jésus faisait comprendre que tous les aliments sont purs et que cela devait enlever la barrière des interdits alimentaires et ouvrir ainsi le peuple de Dieu aux païens.
Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ?»
Oui, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence. Jésus n'est pas compris même de ses disciples. Les pharisiens, eux, cherchent à tendre des pièges à Jésus, car ils ne voient pas dans ses gestes des signes divins.
Les pharisiens lui demandent un signe qui vienne du ciel. Poussant un profond soupir, Jésus dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ?» Amen, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération.
Et à plusieurs reprises, Jésus va déplorer l'incompréhension de ses disciples.
Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? » Ils disent, 12. « Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées? » Ils disent, 7. Et il leur disait, « Ne comprenez-vous pas encore? »
Ne comprenez-vous pas encore? Oui, comme les pharisiens, les disciples sont atteints par le mal qui frappait le peuple de Dieu et que les prophètes ont souvent dénoncé.
Écoutez donc ceci, peuple borné sans cervelle. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Des oreilles, ils n'entendent pas.
Les prophètes annonçaient que la tâche du Messie serait précisément d'ouvrir les yeux et les oreilles.
Les yeux de ceux qui voient ne seront plus fermés. Les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Les gens pressés réfléchiront pour comprendre. La langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement.
Malheureusement, les pharisiens et les disciples s'imaginent parler à Dieu correctement. Ils se considèrent comme des voyants Dieu. Ils s'appuient sur leur fidélité à la Torah pour penser qu'ils méritent l'amour de Dieu. Eh bien, parce qu'ils s'appuient sur leur mérite, ils vivent un lien d'amour qui est illusoire. Car l'amour n'est vrai que lorsqu'il se fonde sur une totale gratuité. L'amour n'est vrai que lorsqu'il est accueil de l'autre, pur accueil. L'amour n'est vrai que lorsqu'il se vit dans l'humilité, dans la reconnaissance de notre pauvreté à aimer, dans la conviction intime que nous sommes toujours en manque continuel d'amour. Celui qui croit aimer en vérité, eh bien celui-là s'empêche de grandir dans l'amour véritable, car on ne peut grandir dans l'amour véritable qu'en accueillant sans cesse le pardon d'amour de l'autre, et bien sûr, d'abord le pardon d'amour de cet autre qu'est Dieu le Père. On retrouve cette même idée dans les échanges entre Jésus et les pharisiens au chapitre 9 de Jean.
C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles.
Celui qui n'a pas conscience qu'il y a une distance entre son désir de Dieu et la réalisation de son désir, eh bien celui-là ne vient pas chercher la lumière et il demeure donc dans sa cécité et dans sa surdité.
Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, nous voyons, votre péché demeure.
Ephphatha, ouvre-toi. Dans la Bible, le cœur qui comprend est toujours associé à l'oreille attentive. Car la pensée de Dieu nous est communiquée par une parole qu'il faut écouter. Je leur donnerai un cœur et des oreilles qui entendent, dit Dieu. La foi est toujours considérée comme une obéissance, c'est-à-dire une écoute de la parole et une écoute qui aboutit à une mise en pratique de cette parole. Jésus dira à ceux qui écoutent son évangile mais qui ne le pratiquent pas, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur, il faut faire la volonté de mon Père ». Celui qui sans cesse se remet à l'écoute de Dieu peut dire à Dieu comme le fait le psalmiste « Tu m'as creusé l'oreille ». Pour lui, en effet, se réalise ce que disait déjà le prophète Isaïe.
« Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. »
Et c'est justement ce qui arrive à ce païen par l'intermédiaire de Jésus. Jésus qui est celui qui vient de Dieu et qui agit en son nom. Une fois ses oreilles ouvertes, sa langue est libérée. Il devient capable de dire la parole écoutée. Dire au sens fort qui est de faire cette parole, de la réaliser, de la rendre réelle. Il dit, et cela fut, nous décrit la Genèse à propos de la création. Le sourd parle maintenant correctement. Ce qu'on pourrait traduire, il fait maintenant toutes choses selon la règle de Dieu. La règle divine est en effet ce qui nous fait agir droitement, correctement. Puisque les mots « règle » et « correct » ont la même racine. La racine « règle » qui signifie ce qui est droit. Marcher dans la droiture, dans le droit chemin que Dieu nous indique, c'est être sauvé, c'est trouver le chemin du bonheur. Ils sont sur le droit chemin du bonheur, ceux qui sont affamés et assoiffés de droiture.
Quel est le rôle des païens dans cet accueil de l'Évangile?
Alors que les membres du peuple de Dieu, les pharisiens, les disciples, semblent avoir le cœur endurci, c'est un païen qui va accueillir Jésus et se laisser guérir par lui. Cela s'insère dans un ensemble où Jésus a de nombreux contacts avec des païens. Oh, certes, Jésus avait dit qu'il est venu d'abord pour les membres d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, a-t-il dit. Et à la femme païenne qui demande la guérison de sa fille, il déclare même « Laisse d'abord les enfants, c'est-à-dire les Juifs, se rassasier. » Pourtant, il va guérir sa fille comme il va guérir le fils d'un centurion romain, un païen. Et il fera la louange de la foi de la cananéenne et du centurion.
« Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. »
Le second repas des pains s'inscrit aussi dans ce contexte païen. Il y a en effet 7 pains. On remplira 7 corbeilles. Le chiffre 7, symbole de la plénitude, évoque aussi les 70 nations qui formaient le peuple connu à cette époque. Et il remplace le chiffre 12 qu'il y avait dans le récit du premier repas, le chiffre 12 qui est le symbole des 12 tribus d'Israël. De même, Jésus dit aux disciples que beaucoup dans la foule sont venus de loin. Et cette expression « de loin » peut désigner les gens venant de régions païennes, comme on le trouve au chapitre 70 d'Isaïe, « Tes fils viennent de loin », ou bien dans le livre de Tobie, « Des peuples viendront de loin ». Alors, on peut se demander, y a-t-il eu 2 repas des pains multipliés, ou bien est-ce que c'est une adaptation du récit des pains qui sera faite plus tard par les communautés chrétiennes qui étaient d'origine païenne ? De toute façon, cela traduit l'annonce faite par Jésus que beaucoup viendront du levant et du couchant, c'est-à-dire des régions païennes, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Dans le récit de Marc, au pied de la croix, c'est un païen, remarquons-le, qui dit sa foi en Jésus qui vient de mourir. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Peu après la guérison de l'aveugle, Pierre va confesser « Tu es le Messie ». Eh bien, les 2 affirmations, « Cet homme est fils de Dieu » et « Tu es le Messie » sont proches. En effet, dans la tradition de la Bible, le Messie est le fils bien-aimé de Dieu. Donc, après avoir été offert aux Juifs, l'Évangile sera offert aux païens, comme le confirmera d'ailleurs l'envoi des disciples par le ressuscité, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Et l'apôtre Paul sera l'artisan infatigable de cette ouverture aux païens. Cela se traduit dans les lettres adressées à des chrétiens venus du paganisme, comme ces 2 extraits que nous faisons de Romains et des Éphésiens.
Je n'ai pas honte de l'Évangile. Il est puissance de Dieu pour sauver qui lui fait confiance. Le Juif d'abord, puis le Grec. Autrefois, vous étiez sans Messie, étranger aux alliances de la promesse. Mais maintenant, en Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendu proche par le sang du Christ.
Pour Jésus, l'amour de Dieu ne saurait être limité à un peuple. L'amour de Dieu est universel, destiné à tous les humains. Si Jésus s'est d'abord consacré à donner son message aux gens d'Israël, l'heure est maintenant venue de s'adresser aux païens. Le règne de Dieu doit se traduire dans une assemblée, une église sans frontières, ouverte à tous ceux qui accueillent l'amour miséricordieux et gratuit du Père qui est Dieu. Le prototype du règne de Dieu sur la terre doit être composé d'humains de toute race et de toute condition. Le récit de Matthieu sur le jugement dernier le dira clairement. Devant le Fils de l'homme seront rassemblées toutes les nations.
Pour les disciples d'aujourd'hui, cette guérison doit être le modèle de la guérison de leur propre cœur.
Les gestes rituels du baptême comprenaient autrefois ce toucher des oreilles et aussi cet usage de la salive et aussi l'injonction « Ephphata » pour vivre selon l'Esprit de Jésus. Il est en effet toujours nécessaire de se mettre à l'écoute de l'Évangile, de manger, de boire les paroles du Maître, c'est-à-dire d'avoir les oreilles ouvertes et de répéter ces paroles pour les inscrire dans la mémoire profonde de l'être. C'est ouvrir son cœur, afin de les dire, de faire ses paroles, de les réaliser, c'est délier sa langue. La découverte de Jésus, de sa véritable identité, se fait toujours dans un lent cheminement pour chaque disciple. Comme le dira d'ailleurs la parabole de la semence et de la terre, nous sommes très souvent empêchés d'écouter ou de dire ou de faire la parole parce que nous manquons de racines ou parce que la détresse nous fait tomber ou parce que les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole. Eh bien, écoutons pour terminer Madeleine Delbrel qui nous traduit cette parabole du semeur en des exemples d'aujourd'hui.
L'amateurisme est notre plus grand risque par rapport à la parole du Seigneur, parce que, gardant un certain contact avec elle, nous avons bonne conscience. Dans une vie qui doit sans cesse naître et renaître de cette parole, y trouver sa fermeté et sa force, en recevoir chaque jour non seulement des exemples, mais un itinéraire immédiat, la parabole du semeur doit être un avertissement continuel. Être un amateur par rapport à la parole du Seigneur, c'est d'abord la prendre et la laisser hors de notre esprit, assez éloigné de nous, sur le chemin, pour que sa lumière entrevue n'influence pas nos journées, nos attitudes, nos actes. Être un amateur, c'est encore pour la parole du Seigneur en prendre et en laisser tomber. Ou bien encore avec la simple pente de notre paresse. On lit ce qu'on a sous les yeux ou sous la main à la sauvette. Et l'on referme sa Bible ou son Évangile avec le sentiment du devoir accompli. Être un amateur, c'est enfin et c'est peut-être surtout faire de la parole du Seigneur une conversation sur lui, même avec lui, et non pas une conversion. Conversion pour laquelle nous est dit tout ce que dit le Seigneur.
Oh oui, Seigneur! Ouvre mon cœur, ouvre mes oreilles, ouvre ma bouche, comme au jour de mon baptême, redis-moi, Ephphatha.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an au livret ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons tous ces renseignements.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.